vous propose de faire un grand bond en arrière et de retourner en 1977. Et voilà ce que j'ai retenu. Michel Sardou cloué au pilori. New York, paralysé par une panne d'électricité. Le centre Pompidou qui horrifie les Parisiens. Un homme qui détourne un avion à Orly. Et la mort de Charlie Chaplin.
1977, Ondelat raconte sur Europe 1.
En janvier 1977, se déroule à Troyes un procès très attendu, celui de Patrick Henry, l'assassin du petit Philippe Bertrand. Avec une question centrale, puisque la culpabilité de Patrick Henry ne fait aucun doute, sera-t-il condamné à mort ou pas? Son avocat, Robert Badinter, parviendra-t-il à lui sauver la tête? Il y parvient.
1h15 après le verdict, l'explosion de colère n'est pas encore complètement calmée. Et les avocats qui ont sauvé la tête de Patrick Henry, Maître Badinter et Boquillon, les jurés qui ont accordé contre toute attente les circonstances atténuantes, sont obligés de quitter le palais de justice par des portes dérobées. Tout à l'heure, la foule qui stationne encore nombreuse dans la rue, accrochée aux grilles, cette foule qui scande « à mort » comme un slogan, a cru tenir deux de ses jurés. Ce n'étaient que des inspecteurs de police en civil que les gendarmes mobiles ont dû protéger et enfermer dans leur car aux vitres grillagées. Il y a là encore des gens qui crient « à mort Badinter, à bas la justice, coupez la tête de ce salaud de Patrick Henry ». Mais dans l'enceinte du palais, l'atmosphère était plus sereine et plus digne après le verdict. Maître Ambre, qui défendait la mémoire du petit Philippe Bertrand, rendait hommage aux défenseurs de Patrick Henry, qui avaient su éloigner la mort, éviter une mort de plus dans ce drame déjà si terrible pour deux familles, celle de Philippe et celle de son assassin. Maître Badinter, qui s'était effondré sur son banc de défenseurs au moment du verdict, nous expliquait qu'un grand pas avait été franchi dans le combat qu'il mène contre la peine de mort, mais que celle-ci n'était pas abolie pour autant. Maître Badinter rendait également hommage au courage des jurés qui ont su dominer les passions et élever le débat, échapper à la pression de la rue qui gronde de colère ce soir à Troyes.
La France est en ébullition autour de cette question, la peine de mort. Et c'est là qu'apparaît Michel Sardou, et lui il est pour. Et il le chante.
Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'avocat, j'aurai ta peau, tu périras. Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort, je suis pour.
Mais en février 1977, en tournée en Belgique, Michel Sardou a de petits soucis.
Après La Louvière et Bruxelles, le chanteur Michel Sardou s'est fait chaudement accueillir hier à Charleroi par le comité anti-Sardou, un comité créé à l'occasion de son passage dans la ville. Les manifestants reprochaient au chanteur son message de droite à caractère fascisant.
Le chanteur répond à la polémique par une phrase. Une seule.
Si on défile pour le tour de chant de Sardou, qu'est-ce qu'on va faire pour les revendications syndicales? Alors on va envoyer des bombardiers.
D'accord. Mais en attendant, le 17 février 1977, à la veille d'un concert de Sardou au Forest National de Bruxelles, une bombe artisanale est découverte dans la salle. Et le lendemain, une centaine de manifestants se massent à l'entrée du concert et sur les banderoles on lit. Il ne peut plus chanter. Sardou égale sadisme, fascisme, racisme, violence, ultra-droite.
Sardou exagère par moments dans ses paroles, ses véritables provocations, et je crois qu'il profite vraiment de cette popularité pour imposer des idées vraiment très démagogiques, parce qu'en plus, il sait très bien où sont les points faibles de la population, qui sont, quand on parle de la peine de mort, quand on le présente comme Sardou le présente, c'est-à-dire comme le père qui vient d'avoir son gosse tué. Il est évident que les personnes imaginant qui viennent d'avoir leur gosse tué réagissent évidemment dans le sens où Sardou voulait qu'ils réagissent. Moi, j'ai toujours personnellement considéré Sardou comme étant dangereux, bon, parce qu'il a une très belle voix, il chante très bien, mais il fait passer, grâce à ça, des idées vraiment qui ne me plaisent pas du tout, quoi. Et il y a beaucoup de gens à qui ça commence vraiment à déplaire.
Mais vous croyez que c'est une bonne solution, l'empêcher de chanter? Vous croyez que ça peut aider?
Je crois qu'il faut faire une manifestation de protestation, il faut faire savoir qu'on n'est pas d'accord. De là à l'empêcher de chanter et à employer des moyens très violents, là je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas comme ça que les gens qui vont à ces spectacles et qui aiment Sardou comprendront nos buts et comprendront en quoi les chansons de Sardou peuvent être dangereuses.
La manifestation se veut pacifique, mais quand même, au cas où, la police est omniprésente pour protéger la tenue du concert.
Vous êtes en train de vous maquiller dans votre loge, et pendant ce temps, il y a des centaines de jeunes gens qui hurlent dehors Sardou, fasciste, violeur et assassin.
Ouais, fasciste, nazi aussi, j'ai vu ça. Ça me fait assez de peine d'ailleurs, parce que je trouve ça un peu, je trouve ça très intolérant, très, très excessif. Je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que le nazisme. Ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire, le nazisme. Ils vont penser à ces gens qui peignaient des étoiles juives sur les devantures des boutiquiers juifs pendant l'occupation. C'est un peu ça. C'est très exagéré, c'est très partisan.
Mais est-ce que vous pensez qu'ils donnent à vos chansons un rôle qu'elles n'ont pas?
Bien sûr, ils exagèrent les choses d'une façon démente. Enfin, c'est pour servir je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que je vois pas quel est leur intérêt de toucher le tour de chant de Sardou. Enfin, ça changera pas. Ça va pas changer le cours de l'histoire, je pense pas. Mes chansons, en général, la plus grande partie de mes chansons, c'est quand même pour distraire. Il est vrai que dans toutes ces chansons, il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres. Bon, je pense à la chanson « Je suis pour » ou...
Cette chanson ressemble à un manifeste.
Non, c'est pas un manifeste, c'est un cri du cœur, si vous voulez. Je me suis expliqué 10 fois là-dessus, je ne suis pas pour la peine de mort, en fait, du tout. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est j'ai un instinct animal à ce moment-là. C'est-à-dire que si on touche à mon fils, c'est ce que je dis dans la chanson, je tue.
Mais Sardou a beau s'expliquer, la polémique prend de l'ampleur. À Toulouse, un cocktail Molotov est lancé contre son chapiteau. À Dijon, on s'en prend à sa voiture. Et à Besançon, le chanteur est attendu par des manifestants armés de manches de pioche et de lance-boulons. Il est obligé d'arrêter sa tournée et il n'interprétera plus jamais « Je suis pour ». En 1995, il dira à Télérama qu'il s'est trompé sur le titre et qu'il aurait dû appeler sa chanson « Œil pour œil ». C'était la Java de Broadway de Michel Sardou en 1977.
1977, on de la raconte sur Europe 1.
Le 31 janvier 1977, le président Giscard d'Estaing inaugure le Centre culturel d'art moderne de Beaubourg. Il est accompagné de Madame Pompidou, puisque le centre portera le nom de son mari, Georges Pompidou. Et comment dire? l'architecture et le design du bâtiment ne laissent personne indifférent.
Je trouve que c'est une horreur, oui, dans toute l'acception du mot. C'est se foutre du monde. J'espère qu'ils vont le plastiquer, oui. D'ailleurs, les gens qui le meurent en face, on devrait leur donner des indemnités, d'ailleurs.
Et les tubes, là, tout
ça. C'est une horreur, ça ressemble à rien. Ils s'en foutent, quoi, non. Ça n'a pas de nom, mais c'est un cinglé, celui qui a fait ça.
Je me demandais justement ce que c'était. C'est la première fois que je passe par là. Je suis un peu surpris par tous ces tuyaux extérieurs. Je me demande s'ils vont mettre quelque chose devant ou pas.
Non, non, c'est fini, là.
C'est terminé, ça va rester comme ça. Après tout, pourquoi pas. C'est original, ça change un peu.
C'est dégueulasse. Et tout le monde le dit, hein. Même les jeunes, bah, tout le monde dit que c'est ignoble. On dirait une fonderie. C'est pas beau, puis ça va servir pour une certaine élite encore.
Ça me plaît, oui. Ça me plaît, oui.
C'est joli ?
C'est très joli.
Je me demande, moi, si ça va être couvert, tout ça.
Ah non, c'est fini, là, c'est fini.
C'est fini. Alors, c'est, dans le fond, c'est une exposition de tuyaux.
C'est moderne, quoi.
Et ça vous plaît ou non ?
Oh, ben, oui, ça me déplaît pas, c'est pas bien.
Vous aimez bien les couleurs, là ?
Oui, c'est joli, ça va faire de la gaieté dans le quartier.
Vous avez quel âge ?
76 ans.
Très surprenant. Ça a l'air d'être une fête quand même. C'est une irruption heureuse dans les quartiers.
Ça, c'est un coup de poing sur la gueule de Paris. Hein.
Le reporter d'Europe numéro 1, Alexandre Fronti, résume les arguments des anti-centres Pompidou.
D'abord, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas beau, que c'est hideux. On dirait une raffinerie de pétrole, on dirait un gigantesque mécano, une monstruosité aux couleurs criardes dans ce quartier balsacien, ça choque. Contre encore, le prix de la construction, le centre a coûté 1 milliard de francs nouveaux, il coûtera encore 130 millions de francs chaque année. Contre toujours, 800 employés au centre Pompidou, alors qu'on manque cruellement de gardiens au musée du Louvre par exemple, le Pompidolium qui a été privilégié par rapport aux autres musées. Contre enfin, la signalisation qui laisse à désirer et les accès difficiles, j'ai mis 2 jours pour comprendre, rassurez-vous, j'ai tout de même trouvé la sortie.
Et Coluche, lui, commente l'événement à sa manière.
C'est Pompidou. Ah non, il est mort, Pompidou. Non, nous a laissé un tas de tuyaux, on a s'emmerdé d'ailleurs.
Les pères de ce tas de tuyaux, comme dit Coluche, sont les architectes Renzo Piano et Richard Rogers. Ils ont volontairement placé tous les services logistiques, c'est-à-dire les tours de refroidissement, les gaines électriques, les escaliers et les canalisations, hors du corps du bâtiment. Pourquoi ? Eh bien, pour que l'intérieur soit exclusivement dédié à l'art. Le président du musée, Robert Bordaz, s'en explique chez Yvan Levaille, sur Europe 1.
Monsieur le Président, bonjour. Inauguration aujourd'hui du centre Pompidou, nouveau sujet de polémique et de division pour les Français qui décidément aiment ça. Dieu que c'est laid, écrivait hier René Barjavel dans le journal du dimanche, on devrait en faire cadeau à Amin Dada. Pour Jean Duvigneault, au contraire, le désordre du musée Pompidou est un désordre bien heureux, c'est ce qu'il écrit dans les nouvelles littéraires. Contester l'esthétique de Beaubourg n'est-elle pas contestable. Ce colossal self-service culturel était-il nécessaire au beau milieu de Paris ? Enfin, la droite conservatrice contre, les communistes pour. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à faire admettre cette esthétique lorsque Gavroche, quand il est chauffeur de taxi, s'écrit ouais, en passant ouais, devant ouais. Beaubourg, on n'a pas de pétrole, mais on a une raffinerie.
Oui, et puis après ? Que ce soit une raffinerie ou autre chose, c'est pas le problème. Il faut savoir si c'est beau ou si c'est là. Moi, je prétends que c'est très beau. Je prétends que c'est très beau parce que c'est un bâtiment qui correspond à son objet. C'est très beau parce qu'il y a toutes les transitions nécessaires entre le passé et le présent. Voyez-vous, il y a une piazza qui est devant le bâtiment qui permet la jonction entre les alentours du bâtiment et le bâtiment lui-même.
Et sur Europe numéro 1 toujours, le secrétaire général du musée, Claude Mollard, est certain que passé la sidération, les Français vont adorer ce nouveau musée.
Le fait qu'on soit choqué est tout à fait normal, de même que les habitants du Moyen-Âge ont été choqués certainement par l'arrivée de Notre-Dame, avec 70 mètres de hauteur, dans un urbanisme parisien de la petite Lutèce qui, à l'époque, était constitué par des chaumières d'un étage. Alors je crois que chaque époque apporte son témoignage d'architecture. On ne pouvait pas construire en plein centre de Paris, une architecture du XVIIIe siècle.
Oui, on aurait pu construire le Pompidolium, par exemple, à la Défense, ou ailleurs.
On aurait pu le construire à la Défense, mais alors à ce moment-là, il aurait été désert. Et symboliquement, cela signifiait que le centre de la ville était voué au bureau et qu'il ne pouvait plus être un véritable centre culturel. Or, la pratique culturelle, c'est vraiment ce qui fait le cœur des villes. Et intégrer ce centre dans le quartier Beaubourg, à proximité des grands magasins, à proximité de la Bibliothèque nationale, du Louvre, Tout ça est symbolique et en même temps révèle un souci d'intégration de la culture dans la vie quotidienne des Français.
Quand vous arrivez le matin, vous trouvez que le bâtiment est beau?
Très beau. Et encore plus beau le soir, je dois dire, car la transparence apparaît avec toutes les lumières qui sont derrière ce bâtiment. C'est vraiment très beau.
1977, Ondelat raconte sur Europe 1.
Cette semaine, je farfouille dans l'année 1977. Et là, je suis donc à New York. New York, début juillet 1977, connaît une canicule suffocante. Et après 13 jours de grosse chaleur, ouf, on annonce la pluie. Sauf que ce jour-là, la foudre s'abat sur une centrale électrique au nord de New York. Et la ville est frappée par un gigantesque blackout. Imaginez la plus grande ville du monde, la plus moderne, dans le Schwarz complet.
Depuis 9h30 du soir, 3h30 du matin à Paris, New York et sa banlieue sont dans l'obscurité totale. 8 millions de personnes dans le noir, sans ascenseur, sans métro, sans réfrigération, ni climatisation, par une nuit étouffante, humide, sous un ciel strié d'éclairs. Le maire de New York vient de déclarer un état d'urgence. Tous les agents de police, tous les pompiers ont été rappelés. Des scènes de pillage se déroulent actuellement dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Brooklyn, où les polices ont abandonné le terrain aux émeutiers. Des incendies ont éclaté dans une prison du Bronx. Ambulances et voitures de police sillonnent les rues où la circulation sans feu ni agent est sauvage. Les hôpitaux fonctionnent encore normalement grâce à des générateurs de secours. Privés de télévision, privés d'ascenseurs, privés de climatisation, les New-Yorkais passent la nuit dans la rue. Ils attendent dehors, groupés autour de bougies, autour de radios, ou même dans leur voiture, que le courant soit enfin rétabli.
Des chirurgiens terminent leur opération dans la rue en se servant de batteries de voiture. Et sur Europe numéro 1, on essaye de comprendre avec un ingénieur français comment un simple orage a pu mettre à mal toute la ville.
La température à New York est considérable et tous les gens font marcher leur climatisation et leur congélateur et tout leur matériel à froid. Et je pense qu'il y a dû avoir peut-être de ce côté-là un appel de consommation considérable. Et il semble bien que la société ait été alertée sur cette situation et qu'il y ait eu qu'un appel au peuple demandant que l'on fasse attention, que l'on arrête les climatisations. Est-ce que ça a été entendu, pas entendu? Est-ce que c'est arrivé à temps? J'en sais rien. En tout cas, je crois qu'ils avaient bien pris conscience qu'ils étaient en situation difficile.
Le lendemain matin, à l'heure où les New-Yorkais partent habituellement au travail, le courant n'est toujours pas rétabli.
Après avoir proclamé l'état d'urgence la nuit dernière, quand la panne a commencé, le maire de New York a déclaré ce matin une journée de vacances. Surtout restez chez vous, n'allez pas au travail et ne prenez pas votre voiture, a dit M. Beam au New Yorkais. Depuis 9h30 hier soir, 3h30 ce matin à Paris, New York est sans électricité, sans train, sans métro, sans feu de circulation, sans climatisation, sans télévision, et ce matin sans pain frais, sans journaux, sans courrier, sans restaurant, et sans pompe d'essence ni ascenseur. Les rares boutiques ouvertes sont des épiceries assaillies par des gens qui n'ont plus rien à manger chez eux. Les New-Yorkais qui, hier soir, avaient pris cette panne comme une occasion de passer une partie de la nuit au frais avec des voisins, regardent ce matin leur grande ville inerte sans comprendre comment, 12 ans après le premier blackout, il a suffi d'un orage mal placé pour que cela recommence. Le maire, M. Beam, continue de promettre d'heure en heure que le courant va revenir. Pour le moment, il est revenu brièvement dans un quartier périphérique qui est déjà tombé dans l'obscurité. En se réveillant ce matin, les New-Yorkais ont pu constater le prix d'une nuit sans lumière. Des centaines de boutiques pillées et incendiées, 2000 personnes arrêtées en prison, une police et des pompiers impuissants, une ville à la merci des pillards et d'un disjoncteur qui saute.
4000 pillards sont interpellés et une prison désaffectée est même remise en service pour les incarcérés. Et c'est à ce moment-là qu'un style musical se diffuse dans la ville, le hip-hop. Et pourquoi? Eh bien parce que pendant cette panne gigantesque, des gamins peu fortunés sont allés voler du matériel de DJ, c'est-à-dire des platines, des micros et des disques. Et c'est comme ça que le hip-hop gagne les rues de Big Apple. Au final, ce blackout dure 36 heures. Et une fois réparé, les New-Yorkais rallument leur transistor et que découvrent-ils? Pas du hip-hop, hein, c'est encore trop tôt. Mais la grande, l'immense Liza Minnelli. Stop.
start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, head of the mist, cream of the crop at the top of the heap. My little town lives up, melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through.
C'était New York, New York par Liza Minnelli qui, en 1977, joue dans le film de Martin Scorsese, New York, New York, aux côtés de Robert De Niro et qui chante donc la chanson principale qui a donné son nom au film. À moins que ce soit le film qui ait donné son nom à la chanson.
1977, On de la traconte sur Europe 1.
Le 30 décembre 77, à 14h, à Orly-Ouest, une Caravelle 3 de la compagnie Air Inter décolle. L'avion a juste le temps de survoler Paris quand le pilote appelle en urgence la tour de contrôle d'Orly-Ouest.
La tour de contrôle, ici le pilote du Paris-Lyon Air Inter. On monte et libérez-nous une piste. Un homme a tiré sur une hôtesse de l'air, il a une grenade. Il est maintenant dans le cockpit. Il nous prend en otage.
Ici la tour de contrôle Orly-Ouest, message bien reçu. Caravelle 3 d'Air Inter, posez-vous piste 47. Les abords de la piste sont sécurisés.
La caravelle se pose. Le pirate de l'air libère 5 femmes, un enfant et l'hôtesse de l'air blessée au bras. Mais il garde 94 otages. Il n'a qu'une seule revendication. Il veut causer dans le poste, à Europe numéro 1. Mais les autorités veulent avant tout qu'il libère les otages. Et les négociations sont dans l'impasse, comme l'indique le commissaire Roux.
Le ravitaillement a été fait en boissons et en nourriture pour permettre aux passagers de se restaurer. Par ailleurs, il ne semble pas qu'il y ait de problème de climatisation puisque l'alimentation en énergie est faite par un groupe électrogène. Donc il n'y a pas de problème matériel qui se pose. Il y avait une malade qui a été évacuée. Et à l'instant même où je vous parle, un passager a réussi à s'échapper en sautant de l'avion par la porte qui avait été ouverte pour faire entrer les marchandises.
Le pirate de l'air ne lui a pas tiré dessus?
Non, pas du tout. Non. Alors je ne connais pas les conditions encore de cette évasion puisque nous n'avons pas encore interrogé ce passager qui va sans doute nous donner des informations sur ce qui se passe.
Est-ce qu'on sait exactement ce que veut ce pirate, mis à part la diffusion de cette fameuse bande à Europe et RMC?
Non, alors c'est la seule exigence qu'il ait formulée jusqu'à présent. Il veut parler à la radio et c'est la seule exigence. Il se refuse à préciser le sens de sa communication. Il a simplement dit qu'elle était politique, mais sans autre précision.
Apparemment, il est très calme. Hein.
Il est calme avec des périodes d'énervement tout de même. La situation n'est pas de nature très calme par essence.
Il est armé sérieusement, non?
Bien, à notre connaissance, il a un revolver de fort calibre et une grenade. On ne sait pas si elle est exacte ou factice, mais enfin, c'est un danger... sérieux.
C'est avec ce revolver qu'il est tiré sur l'hôtesse au moment du détournement.
Il semble que oui.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que vous pensez que cette affaire peut durer encore très longtemps?
Eh bien là, il a demandé que le ravitaillement de l'appareil soit fait en essence, en kérosène. Et les dispositions sont prises pour amener le ravitaillement. Enfin, ça pose quelques problèmes d'ordre technique qui retardent un peu les opérations. Et puis la négociation est toujours en cours entre la tour de contrôle et lui-même.
Est-ce que vous avez une idée de l'identité de cet homme ?
Non, plusieurs hypothèses ont été formulées par certains de vos confrères. Pour l'instant, aucune ne s'est révélée certaine, donc nous en restons aux hypothèses.
Après 8 heures de négociations interminables, de palabres entre la tour de contrôle et l'avion, les officiels ont acquis la certitude vers 20 heures que ce pirate de l'air était seul et qu'il s'agissait d'un homme un peu dérangé, un certain Jacques Robert, connu pour avoir tenté, entre autres choses, une action de ce type il y a 3 ans, dans un studio de radio avec une grenade factice et un pistolet.
Le commissaire Leclerc de l'anti-gang dirige l'opération. Quel est le profil de ce Jacques Robert ? C'est un ancien sympathisant de l'OAS. Il vient de purger une peine de 5 mois de prison pour escroquerie. Et voici un enregistrement absolument exceptionnel des discussions entre le négociateur et le ravisseur.
Bon, je crois que pour éviter la catastrophe générale, tu devrais commencer à te libérer de pas mal de passagers. Et puis ça dégagera déjà pas mal de gens. Et toi le premier, je crois que tu serais plus relax aussi pour poursuivre les négociations.
Absolument pas question de négociation, tant que je n'ai pas eu satisfaction sur le point qui reste en cours, à savoir le ravitaillement au carburant. Maintenant, je te dis une chose, personne ne sortira d'ici si ce n'est par le toit, tant que je n'aurai pas eu satisfaction. Un point, c'est tout.
Non, mais écoute-moi, Jacques. Il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tu veux pas donner le message maintenant, de manière à ce qu'on sache ce que tu comptes faire après, ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus maintenant ? C'est le kérosène ou le message à passer ? D'après ce que tu dis, j'ai l'impression que le message t'intéresse plus. Dis-moi si je t'ai mal compris, Jacques.
Ravitaillement en carburant, un point c'est tout, ne discutons plus, c'est inutile, sympathie, on risquerait de se fâcher, c'est pas la peine. Hein.
Alors, fixe des priorités, dis-moi ce qui est le plus important, et surtout dis-moi si on t'amène le plein de kérosène, si tu peux passer ton message, qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'à ce moment-là, tu libères les 94 passagers ? Jacques, écoute-moi.
Après une demi-journée de négociation, la situation semble bloquée. Jacques Robert, le ravisseur, montre des signes de crispation.
Les officiels ont donc décidé de déclencher une action de commando avant la nuit, d'autant que la caravelle avait refait son plein de kérosène et qu'elle pouvait donc décoller à tout moment avec ses 94 passagers bloqués depuis le début de l'après-midi. Sans crier gare, une quarantaine de policiers de la brigade anti-gang et de gendarmes de la brigade d'intervention se sont lancés à l'assaut de l'appareil. Ils avaient des masques à gaz et des gilets pare-balles. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes à l'intérieur avant d'enfoncer les portes. Ils pensaient peut-être neutraliser tout de suite ce pirate. Seulement, Jacques Robert a lâché sa grenade offensive. Elle est tombée sur un passager qui est mort quelques instants plus tard. Voilà donc une opération qui a coûté la vie à un otage, sans parler bien sûr des blessés. Certains diront peut-être qu'on aurait pu attendre plus longtemps, négocier des heures et des heures avec ce pirate qui était seul, tablé sur sa fatigue. On a préféré la manière forte en prenant des risques.
Un steward raconte l'assaut au micro de Charles Villeneuve pour Europe numéro 1.
À ce moment-là, il a vu que le poste de pilotage était plein de fumée. Les grenades avaient été amenées de l'extérieur ou je ne sais pas comment, mais enfin la caravane, nous faisions donc face à la cabine de pilotage, était pleine de fumée. À ce moment-là, il a senti que quelque chose se passait. Et il s'est retourné le pistolet au poing et la grenade à la main. Et au même moment, on s'est donc tous mis un peu, on s'est terré un peu derrière nos fauteuils. Et à ce moment-là, de l'arrière, est venu les portes latérales ont donc éclaté. Les gendarmes sont pénétrés. À ce moment-là, de l'arrière, on a entendu « Ne paniquez pas, ne bougez pas, nous sommes là ». Puis ensuite, ça a duré, la grenade a explosé, et puis voilà.
Aux côtés de l'anti-gang, l'assaut a été mené par une toute nouvelle unité d'intervention de la gendarmerie, le GIGN. L'unité débriefera longuement cet assaut pour améliorer ses techniques et devenir une unité d'élite incontournable dans ce type de prise d'otage.
1977, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Je parcours pour vous l'année 1977. Le 25 décembre 1977, Charles Chaplin, Charlot, n'est plus. À 88 ans, il meurt d'un AVC pendant son sommeil. Et Pierre Tchernia, le monsieur cinéma de la télévision, réagit dans le journal de midi d'Europe numéro 1.
Je suis très frappé parce qu'on avait beau savoir qu'il était âgé et que tous les hommes sont mortels, un être aussi exceptionnel que Chaplin, disparaît, c'est un bouleversement, et je suis très, très frappé que ça se passe la nuit de Noël. Enfin, il y a une sorte de symbole mystérieux.
Est-ce que c'était vraiment un artiste exceptionnel que...
C'est un artiste exceptionnel, c'est un des plus grands cinéastes du monde, c'est un des plus grands inventeurs du monde, c'est un homme qui a eu le... Qui a été parmi les seuls grands génies du cinéma, et il a connu un succès immense, international, que vraisemblablement plus personne n'aura l'occasion de connaître, parce que le cinéma n'aura plus le rayonnement, n'apportera plus le bouleversement qu'il apportait. Il a créé un symbole graphique, vous comprenez, sa silhouette est connue dans le monde entier. Elle a fait rire des millions de gens, elle a fait pleurer des millions de gens, et en plus de ça, toute son histoire est une histoire bouleversante, puisque c'était un... Il a commencé fils d'une famille de comédiens qui n'avaient pas grand succès. Il a connu une jeunesse très malheureuse, une enfance très triste dans les faubourgs de Londres, et puis... Il est devenu la plus grande vedette du monde.
L'humoriste Raymond Dehos, qui est le strict contraire de Charlot, puisqu'il fait rire avec des mots, rend lui aussi hommage à Chaplin.
Voilà un homme qui s'est exprimé dans un art muet. Et je ne pense pas qu'il y ait langage plus fort. Moi, je ne veux pas faire du violoncelle, hein, c'est complètement idiot. Mais il jouait, il ne trichait pas. Et quand on regarde ces images-là, on s'aperçoit que cet homme jouait la situation totalement. Je crois qu'il la vivait. Je crois qu'il faut aller jusqu'au... D'ailleurs, Sanson ne dirait pas qu'il a du génie. Alors, il vivait ces situations-là. C'est-à-dire qu'il ne trichait pas. Il aurait pu se contenter d'avoir un masque qui se balade, etc. Mais il jouait toute son histoire profondément et intérieurement. Alors, c'est là où on voit que c'était quelque chose d'immense.
Le 24 décembre, la veille de sa mort, Chaplin avait demandé que le voisin de son manoir vienne, comme les autres années, jouer le rôle du Père Noël pour ses petits-enfants. Et cet ami et voisin suisse, Europe numéro 1, parvient à le joindre le 25 décembre. Et voici une nouvelle pépite issue de nos archives.
C'était un personnage, mais on ne lui courait pas après. Il allait, venait, personne ne se retournait sur son chemin. Du reste, les derniers temps, vous savez, il ne descendait plus qu'en voiture et puis en poussette. C'était plutôt un petit peu navrant de le voir. Ça faisait triste parce que nous, on aimait le voir aller et venir toujours d'aplomb. Parce que c'était un homme qui était assez fort, petit, mais il était costaud.
Il avait un bon contact avec les gens?
Ah oui. Seulement pas un contact direct pour la bonne raison qu'il ne parlait pas bien le français et qu'il fallait parler l'anglais pour l'approcher. Mais autrement, oui, comme ses enfants, les enfants de Charlot, ils se mêlaient aux enfants du village, vous savez, avec la plus grande simplicité. C'était pas du tout un type qui cherchait les honneurs et puis qui se faisait appeler majesté, pas du tout. Bon. Il a été sacré, je crois, l'or en Angleterre, on lui a donné un titre, je crois la reine d'Angleterre a donné un titre, mais il s'en emparait pas, il s'en fichait, j'ai l'impression. C'était pas un homme qui recherchait la gloire et les honneurs, du reste, je crois qu'il les avait sans ça. Mais il ne recherchait pas ça du tout.
Et sa famille est aussi simple que lui?
Ah, puis sa famille est aussi simple que lui, oh oui. Oui, oui, pas du tout le genre snob, ah non, pas du tout.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. Chocolat glacé.
C'était Eddie Mitchell avec La Dernière Séance. Et voilà, merci à ma joyeuse équipe, Guillaume Maury, Julien Pichenet, à Guillaume Vassot pour la réalisation. Vous trouverez sur votre application dédiée d'autres podcasts qui remontent à d'autres années.
Retrouvez On Delatte Raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.